Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Je trouvais que c'était important, ça fait, de revenir là, sur la crise autochtone qui bloque tout le réseau ferroviaire canadien et québécois et d'essayer de comprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites cette semaine, toutes sortes d'affaires, des vraies, des fausses. Je trouvais que c'était important de comprendre comment ça se fait qu'on en est là. Au bout de deux semaines, qu'on n'est pas capable visiblement de régler, de s'entendre. Cette semaine, on a dit à qui il parle, à qui parler, qui représente qui. On a beaucoup pointé du doigt le fait que chez les Autochtones, on ne semble pas s'entendre non plus. On a relevé le fait qu'entre autres, par rapport au fameux gazoduc en Colombie-Britannique, il y avait eu quand même des ententes de signer avec des Autochtones. Aujourd'hui, d'autres Autochtones nous disent « Non, mais c'était pas les bons qui ont signé. » Puis là, les Blancs disent « Voyons, c'est quoi la chicane? » Même les Autochtones ne s'entendent pas entre eux, comme si nous, entre Blancs, on s'entendait, les amis, quand même. On est bons pour juger, il faut quand même le dire. Mais bref, est-ce qu'il y a moyen? Puis là, c'est devenu, vous en convenez, on est parti d'un problème de gazoduc environnemental, donc de train bloqué, de voie ferroviaire bloquée. Et là, on est devenu, on veut un monde sans Canada avec les 3K du Ku Klux Klan. Là, je me dis, il faut vraiment qu'on fasse la lumière là-dessus puis qu'on essaye tous de comprendre ce qui se passe. Alors, j'ai demandé à deux spécialistes de venir nous expliquer ça. Mélissa Molène-Dupuis est cofondatrice du mouvement québécois Idle No More. Merci, Mélissa, d'être là.
Oui, Isabelle.
Oui, effectivement. Pierre Trudel est chargé de cours à l'UQAM, membre de la chaire de recherche du Canada en études québécoises et canadiennes, un expert de la question, surtout parce que, Pierre, merci d'être là, vous avez Bonjour. Également tout le bagage d'Oka.
Oui, ça me rappelle des petits souvenirs.
N'est-ce
pas?
Du monde. Voilà, exactement. Puis moi, j'y étais aussi, il y a 30 ans, et ça ne nous rajeunit pas, je disais, mais n'empêche que c'est ça. Puis il y a bien des Québécois qui y étaient, qui s'en souviennent ou qui n'y étaient pas, mais qui l'ont vu. Ça a été comme un... Puis partons de là, parce que depuis les derniers jours, moi, je trouve... Ça a des relents d'Oka, là. Ça a des relents d'Oka, avec tout ce que ça veut dire de pas le fun. Pierre, comment vous voyez ça, vous?
Bien, vous savez, on se souvient des images fracassantes de la crise d'Oka. On se souvient moins que 18 ans après la crise d'Oka, le gouvernement fédéral a admis une faute fiduciaire concernant l'enjeu. Au moment de la crise d'Oka, on ne voyait pas ce point de droit-là, cette réalité-là, que finalement, les occupants ou les manifestants et là, je parle pas du fait d'avoir pris des armes ou pas, là. Mais il y avait comme, entre guillemets, raison juridiquement, puisque le fédéral avait admis une faute fiduciaire qui l'aurait dû empêcher.
Faute fiduciaire.
Une faute fiduciaire, c'est la responsabilité du gouvernement fédéral de protéger les intérêts des Autochtones. Il aurait dû empêcher la vente de terres par les Sulpiciens en 1940 parce qu'il y avait des intérêts autochtones dans ces terres-là. Donc, il admettait qu'il y avait une faute, là, 18 ans après la crise d'Oka. Présentement, il y a l'équivalent. C'est-à-dire que avant, il y avait la consultation, puis l'accommodement, puis une table dans le dos, mais ça a monté au Canada. On parle de consentement préalable, libre et éclairé, qui fait partie de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones que le Canada a endossé. Donc, l'enjeu, c'est ça, là. C'est-à-dire que localement, en Colombie-Britannique, il y a une... Les cours de justice ont reconnu les chefs héréditaires comme une partie prenante. Il y a une question de droit, puisqu'il n'y a pas de traité. Et il y a une ambiguïté, il y a des décisions qui vont d'un bord puis de l'autre. Puis donc là, je pense que ça, c'est un enjeu, puis ça a des répercussions partout au Canada, parce que c'est... Maintenant, on admet le niveau d'obligation entre la consultation, puis c'est pas un veto, là. Mais là, présentement, c'est pas satisfait. La commission des droits de l'homme de la Colombie-Britannique a dit que ce droit-là avait été pas respecté, qu'il fallait respecter le droit des autochtones concernant le consentement préalable libre et éclairé.
Mais c'est là où Mélissa intervient pour nous l'expliquer. Mélissa Molène-Dupuis, cofondatrice du mouvement Idle No More au Québec. Là, on essaie de comprendre. Là, il y a des gens qui vont dire, OK, mais le consentement, là, on l'a eu de certains chefs de conseil de bande. Là, aujourd'hui, on parle de chefs héréditaires. Là, le monde est mêlé. Ils disent, voyons, c'est-tu d'autres chefs qu'on connaît pas? Explique-nous un peu comment ça marche.
Bien, ça, en 1990, il y a eu la crise d'Oka, mais en 1997, il y a eu l'arrêt d'Elgameux, qui est extrêmement important. C'est un arrêt en Cour suprême qui reconnaissait la légitimité des chefs traditionnels ou des chefs héréditaires, dans le cas des Wet'suwet'en, sur leur territoire non cédé, qui sont des territoires ancestraux, mais ne sont pas des terres de réserve. Donc, il ne faut pas oublier que la loi sur les Indiens, ce sont les chefs de bande. Et les territoires ancestraux, ceux qui sont aussi enchâssés dans la Constitution de 1982, dans l'article 35, ce sont les chefs héréditaires. Mais il y a un problème présentement parce que c'est encore mélangé dans les médias puis dans l'imaginaire canadien. Les chefs de bande, les chefs héréditaires peuvent aussi être un et l'autre.
Mm-hmm. Ils peuvent être les mêmes personnes.
Ils peuvent être les mêmes personnes. Ouais. Et une autre idée
mais
aussi.
Pas tout le temps.
Ouais. Et une idée très importante aussi qui doit voyager, c'est les chefs de bande ne parlent pas pour tous les Indiens. Là, je parle des Indiens entre guillemets parce que c'est la loi sur les Indiens. Là, présentement, on entend aussi des voix citoyennes qui ont voulu se faire entendre par certains de leurs dirigeants, qui ne se sont... Puis je pense qu'on va, comme tu l'as dit tantôt, Isabelle, on va entendre la même chose que chez les Québécois, chez les Canadiens. Quand t'es dirigeant, t'écoutes pas, puis que tu dois te faire entendre en tant que citoyen. Malheureusement, dans certaines des clauses qui sont signées avec l'industrie de certains des chefs qui ont approuvé, ça dit « vous allez décourager les membres de votre communauté à s'opposer, à critiquer dans les médias sociaux ou partout ». Donc, est-ce que le droit de parole citoyenne, tu sais, c'est un droit humain de base au Canada, peut être décidé par un chef? Ça aussi, c'est pas normal au Canada, mais la loi sur les Indiens a permis que, bien, on dirige le conseil de bande, ce qui est tout ce qui est fédéral, municipal, provincial, dans une terre de réserve. Et ça peut donner beaucoup de pouvoir à certaines personnes. Mm-hmm. Mais tous les chefs sont pas de même. Donc, c'est ça, ça généralise beaucoup l'idée de qui dirige, qui décide, qui parle pour qui. Mais il faut pas oublier que comme tous les citoyens canadiens ou québécois, nous aussi, on a des enjeux entre nous. Mais là, il faut en plus qu'on les démêle sur la place publique. Et là, ça, c'est sans parler tous les commentaires disgracieux, certains commentaires qui disent même de nous tirer entre les yeux. Vous pouvez imaginer comment on peut pas exposer tout de façon claire et informante, si en plus il y a des biais raciaux, des biais discriminatoires envers nous. Tu sais, ce qu'on voit dans les médias sociaux, les commentaires qu'on voit, c'est des ambassadeurs pour la relation québécoise et autochtone. Mais il y a une chose, par exemple, que je dois dire, c'est contrairement à 90, contrairement à 2012, il y a une montée de l'appui non autochtone par rapport à nos enjeux parce que les gens sont de plus en plus informés et voient de plus en plus l'injustice. Donc, plutôt que de se faire traiter, excusez-moi, de sauvage, de maudit, de se faire dire des choses super malsaines, maintenant, il y a des gens qui disent « Non, arrête, t'as pas le droit de dire ça. Ça se fait pas au Canada. »
Ah, mais en même temps... Oui. Moi, je trouve que c'est plus grave ce qui se passe en ce moment au niveau de l'impact. Là. J'ai parlé avec le président de l'UPA. C'est pas drôle. Là. C'est pas drôle. C'est quand même le pays, puis ça, je pense que vous en êtes conscient, là, comme autochtone, qui se passe que vous avez une poigne solide parce que là, c'est pas une petite trop de seconde. Moi, j'étais au cas, là. Quand même, ça a été barré 78 jours. C'est pas pour rien. Là. Parce que ça dérangeait pas grand monde là, que cette route-là soit barrée.
Ben oui.
Après, quand il y a eu le pont Mercier, c'est devenu autre chose. C'est d'ailleurs quand ça a été au pont Mercier, puis à Châteauguay, Pierre Trudel, que ça a pris des proportions puis que ça a dégénéré.
Oui, ce qui ressemble présentement, c'est qu'on qualifiait M. Bourassa de mou, qu'il n'y avait pas de colonne, qu'il fallait qu'il agisse. Là, ça ressemble un peu à ça, mais je pense qu'il regardait plus loin que son nez. Et après la crise, on a réalisé qu'il avait bien raison. La réconciliation aurait été très difficile parce que le pont était bloqué. C'est sûr que c'est un enjeu moins important que présentement. Non, 55 jours.
C'est vrai, oui.
Ouais. 55 jours, le pont était bloqué. Puis les forces armées ont avancé. Moi, j'avais conseillé, parce que j'étais allé donner une formation au Collège militaire Saint-Jean, j'avais conseillé au général Dallaire que les militaires n'aient pas d'armes à feu. Parce qu'on était rendu à un point de saturation. Comme présentement, ça va arriver. Là, M. Bourassa avait perdu 18 % dans les sondages. Ça faisait un an qu'il était élu à cause de la crise d'Oka. Il allait perdre le pouvoir. Là, il allait avoir des warriors blancs. Donc là, présentement, il y a un enjeu qui est comment va-t-on intervenir? Et puis, c'est quand le point de saturation où la paix sociale est plus importante que l'enjeu autochtone des terres autochtones en Colombie-Britannique. C'était la même chose qui s'est produit à Oka, à un moment donné. L'armée avançait sur le pont. Heureusement qu'il y a eu une entente entre les parties où il n'y a pas eu d'échange de coups de feu. Parce que là, ça aurait été catastrophique. Imaginez la difficulté de réconcilier après 50 morts. Là, hein? Ça aurait été catastrophique. Aujourd'hui, si on fait un petit parallèle, il n'y a pas d'armes présentement. Mais moi, je dis que si on rentre dans des territoires autochtones comme à Tintinarga, là, les policiers, enlevez vos armes, tout au moins. N'ayez pas d'armes parce que vous allez...
Mais si c'est la SQ qui y va, là.
Mais Pierre,
c'est la Sûreté du Québec qui y va. Là.
Ici, c'est pas barré à Saint-Lambert. Ça, c'est...
Ah, OK. Bon, expliquez-nous la différence parce que...
J'ai établi une différence, c'est des relations entre peuples. Quand des policiers d'un autre peuple arrivent avec des armes, C'est différent.
Okay.
C'est différent.
D'ailleurs, c'est ça qui a mis le feu au Canada au complet. Quand on a vu la GRC embarquer dans les territoires Wet'suwet'en, aller prendre des femmes autochtones en cérémonie, les retirer de là, ils étaient avec des chiens, là, des fusils. Et tout de suite après, par exemple, le message était très clair. L'industrie est arrivée et a commencé à démanteler la barricade. Donc, on voyait vraiment que le Canada avait choisi sa relation avec l'industrie.
Et je pense que c'est là où les Blancs, entre guillemets, nous, on peut comprendre la cause. Parce qu'au début, il ne faudrait pas perdre ça de vue, là, si je peux me permettre conseil pour les Autochtones qui veulent mener cette lutte-là. Il ne faudrait pas que ça soit juste un prétexte, l'environnement et la défense de l'environnement à cause du gazoduc pour débattre de toute la cause autochtone.
Non, c'est ça.
Es-tu d'accord avec ça, Mélissa?
Oui.
Parce que là, il y a une bonne accroche, là. T'sais, on peut tous être unis sur la cause environnementale. Pas sûr que les Québécois veulent tous un gazéduc non plus, ou un oléoduc, ou des pipelines. Pas sûr qu'on le veut tous, parce qu'on a... Je suis pas sûre qu'on nous l'a bien expliqué, d'ailleurs, pourquoi, quels sont les enjeux de ça.
Ben non, mais ça,
il y a peut-être une cause commune, là. T'sais.
Ben oui, c'est un bon enjeu point. On le voit visiblement. Écoutez, là, il y a 500 000 de personnes qui marchaient dans les rues, puis eux autres, ils pensent sérieusement que le gouvernement n'arrivera pas à agir d'ici 10, 15 ans.
Ouais.
Vous avez animé une émission à Télé-Québec que tout le monde devrait voir. Là, c'était pas des radicaux extrémistes qui s'exprimaient, puis il y avait un consensus sur l'urgence d'agir.
Exact.
Il y a un cours qui se donne, là, il y a du monde qui prend des notes. Là. Les infrastructures sont très fragiles au Canada.
Ouais.
Puis si je peux me permettre de ne pas perdre de vue non plus le fait que, présentement, on depuis 150 ans, on fait des mobilisations exemplaires. On est pacifique, mais pas passif. Et la manière qu'on est pacifique, c'est qu'on s'assoit sur nos territoires et on attend. On bloque des territoires qui sont les nôtres. On dit tout le temps...
Oui, mais Saint-Lambert, d'abord, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ça, Saint-Lambert, il va y avoir des mobilisations en support. Mais présentement, je pense qu'il y a justement une problématique de mobilisation en support parce qu'il n'y a pas d'action qui se fait présentement. On nous garde là. Et là, présentement, excusez-moi, là, mais arrêtez de construire des choses qu'on pourrait bloquer en les mettant sur nos territoires sans nous le demander, sans notre approbation. C'est ça qu'on est juste sur nos territoires. Et là, c'est là où il y a une juridiction aussi, parce que c'est dans des communautés autochtones. La juridiction Saint-Lambert, c'est autre chose, mais là, c'est des appuis citoyens. Fait qu'eux autres, ce qui leur manque pas en tant que le fait qu'ils sont pas des Autochtones puis qu'on veut foncer dedans, c'est que c'est des citoyens qui utilisent leurs privilèges pour dire, écoutez, ça n'a pas de bon sens de faire ça encore aujourd'hui en 2020, quand on parle de réconciliation. Nous, on continuellement on tend la main, continuellement, on dit oui, on veut s'entendre, puis continuellement, ben, pendant qu'on tend la main puis qu'on secoue la main de l'autre, ils nous fouillent les poches en même temps. Fait que là, on est étranglés dans ces situations-là de droits humains, de territoire, et parce qu'on se débat, parce qu'on dit non, en faisant le plus pacifique possible.
Mais tu trouves pas, Mélissa, oui. T'es quand même cofondatrice de Don't No More au Québec, pense pas que Saint-Lambert, ça vous nuit, qu'il y ait ce blocus-là à Saint-Lambert, en territoire, entre guillemets, québécois, là, parce qu'on pourrait dire à la rigueur, vous étiez là avant, qu'est-ce que tu veux? Oui, à la base, c'est un territoire autochtone qui a été... Mais bon, là, on est en 2020. Saint-Lambert s'appelle Saint-Lambert. C'est pas une réserve, c'est pas un territoire officiellement autochtone.
C'est un blocage de voie publique, mais on n'est jamais allé retourner la garnotte chez le voisin. On n'a jamais attaqué des citoyens. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les voies publiques parce que nous autres, la relation est directement avec le fédéral, avec la couronne. Et la raison.
Mais ça fâche le monde.
Ah, ben oui, mais c'est pas nous autres qui avons écrit la loi.
C'est l'enjeu qui fait qu'on va se retrouver avec un gouvernement conservateur.
Oui.
C'est parti pour ça. C'est ça qui va arriver.
C'est ça qui peut arriver. Exact. Si ressac, puis si,
entre le coronavirus, pas
là,
géré,
Simon,
et puis ça...
Donc là, M. Simon, là, au cas, il patinait d'un bord puis de l'autre parce qu'il y avait ça en tête aussi. Là.
Ouais.
Est-ce qu'on va favoriser...
Ouais.
L'élection d'un gouvernement conservateur qui va être pas mal plus dur.
Exactement. On va s'arrêter ici. Très courte pause. Comment régler la crise autochtone? Si vous avez des questions, là, écoutez, on a deux spécialistes. C'est de toute beauté. Ils vont pouvoir répondre. On est vraiment dans le partage puis dans la discussion. On essaie de voir comment c'est possible d'en arriver à une entente pacifique. J'aime bien ce que tu disais. On est pacifique, mais on n'est pas passif. Puis je pense que tout citoyen québécois, canadien, autochtone peut se retrouver là-dedans. 514-790-9850 et de l'extérieur, vous faites le 1866, bien sûr. 1866-790-9850. On va parler des manifs aussi. Il va y en avoir demain.
Et
cet après-midi, alors on parle de ça avec vous tout de suite après ceci. Alors, on va essayer de démêler un peu ça. On essaie d'expliquer quels sont les enjeux ici, autochtones versus terre cédée versus terre non cédée. Bien sûr, ce blocus ferroviaire qui embête un peu tout le monde de plus en plus. Il y a quand même le fondement qu'il faut comprendre avant d'être capable de faire des posts Facebook enflammés et de se rebeller puis dire les maudits Indiens qui nous font encore suer. Il faut comprendre vraiment c'est quoi qui sous-tend ça. Il y a une crise environnementale quand même. On est pas mal dedans, même s'il y en a beaucoup qui nous disent non, ça va bien aller. Il y a une crise là aussi autochtone qui repart de plus belle. Ça veut dire qu'il y a des choses non réglées. On a beaucoup d'auditeurs qui veulent intervenir. Serge, je commence avec vous. Comment vous voyez ça, vous? On parle d'essayer de comprendre comment régler cette crise.
Bonjour, Isabelle.
Bonjour.
Bonjour à tes invités aussi. Moi, je sais pas le moyen, peut-être la parole. Il faudrait que ça soit, mais au plus vite, parce que là, ça s'en vient grave. Après, qu'est-ce qui va arriver? Il va-t-il avoir d'autres blocages? Parce que, je sais pas, moi, j'essaie de trouver d'autres causes à défendre. Si c'est ça, c'est correct. Mais que ça dure comme ça longtemps de même, ça se peut pas. Là. Ça va affecter tout le monde, même les Indiens aussi. Là.
Ouais.
C'est ça, faut régler ça. Là. Monsieur Trudeau, je ne sais pas s'il a mis ses pantalons avec sa ceinture, mais il va falloir qu'il trouve un moyen, là, puis ça presse.
Oui, exactement. Donc vous déplorez, vous êtes pour la cause, mais vous déplorez l'impact finalement, Serge.
Ben c'est ça, oui.
Ouais. Puis je pense que c'est une bonne façon de le présenter. Merci à vous, merci beaucoup. Merci bien. Madeleine, bonjour.
Bonjour, Isabelle. Moi, mon commentaire est à l'effet qu'on doit parler présentement, là, et on aurait dû le faire bien avant, droit, liberté et responsabilité. Parce que là, tout le monde a le droit de faire n'importe quoi, mais la responsabilité ne vient pas avec. Mmh. Alors, ça donne beaucoup de pouvoir aux gens, mais c'est de façon très indue. Alors, je pense qu'il est temps, là, maintenant, de passer aux responsabilités qui viennent avec, les gestes.
D'accord. Et là, vous voulez dire, par là, Madeleine?
Ben, je veux dire que on ne peut pas laisser des gens sous prétexte qu'ils vont bloquer des voies, parce que ça, c'est la fragilité d'un pays. Hein? Mm-hmm. Alors là, tout le monde, dans le fond, peut faire n'importe quoi. Mm-hmm. On se dit, oh, ben là, tu sais, aujourd'hui, on va faire ça, ben, ça me tente pas, là, puis on va être du fun, tu sais. Mm-hmm. Ça peut partir même de là. Ouais. Alors, je pense que c'est très fragile, et il faut vraiment faire part des responsabilités. Il faut toujours noter non seulement droits et libertés, mais responsabilités.
D'accord.
Et là, dans la tête des gens, ça va venir qu'à changer le... Je trouve qu'il est un peu tard, mais quand même, il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Merci. Alors, merci, Madeleine. Denis, votre opinion?
Oui, écoutez, moi, je suis pour ce que les Autochtones font actuellement. On ne fera pas l'histoire. Là, on sait que tout ce qu'on leur a fait subir dans l'histoire. Je me demande, moi, s'ils occupaient notre territoire, on chiale, là.
Mm-hmm.
Mais là, ils veulent faire passer du gazoduc sur leur territoire.
Mm-hmm.
Alors, moi, la solution, là, c'est que Trudeau bouge pas assez vite. Ils ont demandé une garantie de pas avoir de l'essence qui passe sur leur territoire, puis enlever la police. Qui leur donne ça, là, puis qu'après, ils négocient.
Exact. Merci, Denis. Benny. Ouais. Pierre Trudel, là-dessus.
La solution, c'est qu'on suspende le projet, présentement, qu'on le suspende temporairement.
Mais il va dire qu'on envoie
Mme Wilson Raybould, qui a du temps, là, et puis ministre, là, peut-être qu'elle pourrait servir de médiatrice dans ce dossier-là. Et après ça, établir des mécanismes plus formels concernant l'obligation de consentement préalable libre et éclairé, qui n'existe pas vraiment, parce que c'est tout nouveau, puis on ne l'applique pas, puis on ne sait pas comment l'appliquer.
Parce que
c'est ça la solution. Moi, ouais. Moi,
donc, on sort la GRC. D'ailleurs, la GRC
est à moitié sortie, mais qu'on suspende présentement ce projet-là.
Mais il ne fera pas, Pierre.
Là, c'est la compagnie qui continue de construire son... Et là,
puis là, ils vont nous dire, l'enjeu, ça va être combien de milliards ça va coûter au Canada,
si on
recule.
C'est une question d'urgence. L'urgence, là, c'est de trouver... C'est la paix sociale. C'est ça, l'urgence. Oui. C'est pas la continuité de la construction de ce gazoduc-là, qui pourrait peut-être éventuellement reprendre, là, mais c'est pas la continuité de la construction de ce gazoduc-là qui est l'urgence. L'urgence, c'est la paix sociale.
Écoutez, moi, je peux juste dire, c'est vrai qu'il y a une responsabilité qui doit être prise. Et je peux vous dire que c'est peut-être pas ceux que vous pensez qui doivent la prendre. C'est ceux qui font des promesses, qui nous parlent continuellement de réconciliation, que la relation autochtone est la plus importante. Mais le truc, c'est que tout le monde va tourner vers Justin Trudeau présentement. Mais c'est parce que moi, il y a 7 ans, c'était Stephen Harper. Puis j'imagine que dans 7 ans, ça va être le prochain élu. Les partis politiques, présentement, se lancent la balle pour... ils ont pelleté par l'avant et là, c'est bloqué. C'est bloqué, puis c'est pas une relation avec les partis politiques qu'on a, c'est une relation avec le Canada. Et le Canada, dans toute l'entièreté de ses infrastructures qui a été créée autour, justement, de ce vol de territoire, ce vol de droits. Et présentement, souvent, ce qu'on nous demande juste, c'est d'aller mourir tranquillement dans un coin en silence. Alors que là, on se lève pour dire, écoutez-nous. OK, écoutez, on va s'asseoir ici, puis on va attendre que vous nous écoutiez.
Peut se régler de votre bord?
Arrêtez le projet, parce que ce projet-là, c'est en Colombie-Britannique.
Ouais.
Mais il y a GNL qui s'en vient ici au Québec, et les Inuits du lac Saint-Jean, puis des citoyens québécois sont en train de s'unir, parce que justement, encore une fois, on les écoute pas, eux. Alors, puis ça va passer à travers 3 territoires autochtones, Algonquins, Atikamekw et Inuits. Et là, les chefs, les gens qui sont justement dans les camps familiaux, les citoyens, il y a des alliances qui se font entre Québécois et Autochtones parce que justement, ça s'en vient pour être ça, la lutte pour les changements climatiques, la lutte pour des trucs de justice. Fait que, tu sais, est-ce que quelqu'un ferait passer ce gazoduc-là justement dans Saint-Lambert? Non. C'est mieux dans les territoires autochtones.
C'est pour ça que c'est important d'en parler de tout ça. Oui. Parce que la prochaine chicane, c'est GNL au Québec. Puis il y a beaucoup de gens qui sont de la région qui disent, hey, pour nous, c'est des jobs. Là.
Oui. Ben écoutez, il y a 183 ans au Canada, il y avait une économie qui s'appelait l'esclavage. Mm. Et quand on a voulu l'abolir, le monde disait, ben là, l'économie, elle va s'adapter. À chaque fois qu'ils ferment des industries en région, parce que moi, je viens de la Côte-Nord, là, une nouvelle industrie vient s'installer. Ce qu'on veut, c'est des emplois durables. Ces emplois-là, ça va être temporaire. Et le gazoduc va traverser la province.
Ouais.
Et il n'y a rien qui va bénéficier directement ou venir directement du Québec. Donc, c'est de prendre tous les risques pour très peu des profits. Et ça, c'est des industries qui, au Québec, ont souvent eu place. Et là, on entend en plus qu'ils sont dans des paradis fiscaux.
Ouais.
Et là, j'ai dit, c'est, nous autres, on crie pour que le Québec se fasse entendre.
Ça va être notre prochaine...
Atikamekw, et nous, il n'y a pas de traité là. C'est très semblable à ce qui arrive là-bas. Sauf qu'il y a peut-être moins clairement une reconnaissance d'autorité traditionnelle dans l'Est que dans l'Ouest, là. Mais ça se ressemble au niveau de l'enjeu. Là.
Fait que c'est la prochaine chicane, celle-là.
On n'a pas
la
les chefs prochaine
chicane,
ça.
Ben, c'est pas une chicane, c'est un enjeu qui doit exister parce que c'est un développement. Puis il y a des gens qui reposent des questions concernant ce développement-là.
Mais tu sais, on nous l'a pas expliqué, GNL, non plus, là.
Hein?
On ne nous l'explique pas, non. GNL non plus. Il n'y a personne qui nous l'a expliqué.
Il y a un débat là-dessus présentement.
Ouais, c'est très symbolique, on se la fait passer une.
Mais nous autres aussi?
Oui, non, c'est ça. Mais je veux dire, le Québec...
Peu tanné de me faire passer des pipelines, sérieux. C'est quand même... Ça peut être désagréable. C'est quand même des gros tuyaux. C'est comme... Ça fait mal. Mais Lisa, parle-nous des manifs.
Ah oui, ben écoutez, justement, quand on parle de GNL Québec à Mastoyach, demain, il va y avoir des manifestations, justement, en collaboration Inuit et Québécois. Cet après-midi, à 2h, au métro Saint-Laurent, il y a une manifestation, justement, étudiante, la Fèche UQAM, en collaboration avec le Cercle des Premières Nations au Québec, le Cercle des Premières Nations de l'UQAM.
À 2h cet après-midi.
À 2h cet après-midi, ici à Montréal, puis à Idle No More, on participe. Encore une fois, c'est juste pour amener l'attention sur ces enjeux-là, puis on encourage les gens à s'informer. S'il y a 2 semaines, vous n'étiez pas capable de prononcer Wet'suwet'en, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui doivent être lues et comprises.
Voilà. Là, je pense qu'on est capable. Wet'suwet'en.
Oui, alors on sait.
Là, le monde le sait. Là. C'est bon.
Il reste pas mal d'autres nations.
Oh, il y a beaucoup d'autres mots à apprendre. Comme
On continue à découvrir l'Amérique.
Tout à fait. Ouais, tout à fait.
Réconciliation est morte. Vive la réconciliation. Ouais. On va aller de l'avant. On n'a pas le choix. On vit ensemble. Ouais. On est une société qui a été tissée ensemble. C'est tout croche, mais là, on peut aller puis commencer à tisser ça un peu plus droit. Là.
Voilà, faire des mailles plus solides, des maillons plus solides. Merci beaucoup à tous les deux, Pierre Trudel. Toujours très intéressant, vos explications. Chargé de cours à l'UQAM, membre de la chaire de recherche du Canada en études québécoises et canadiennes. Mélissa Molène-Dupuis, cofondatrice du mouvement Idle No More au Québec. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci. On s'arrête ici tout de suite après la pause. On finit en beauté avec une entrevue sans filtre, surtout en chansons formidables. Moi, je les aime beaucoup. Ce sont deux frères. À tout de suite.